France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
La grande majorité des prisonniers de Guantanamo ne sont pas accusés d'avoir commis un crime. On leur reproche d'avoir combattu aux côtés d'Al-Qaïda ou des talibans, mais pas un crime en particulier.
Beaucoup de gens pensent que le cas de ces détenus pourrait être traité par une cour fédérale aux États-Unis, ce qui serait beaucoup plus facile. Mais le gouvernement a choisi de faire cela devant une cour militaire tellement éloignée à Cuba.
C'est une évidence, vous ne pouvez pas torturer quelqu'un et puis ensuite juger cette personne dans un procès qui respecterait les standards internationaux en matière de justice.
L'an prochain doit s'ouvrir le procès des cinq hommes accusés d'avoir planifié les attentats du 11 septembre 2001. Inculpés il y a 10 ans déjà, cela fait une quinzaine d'années qu'ils attendent d'être fixés sur leur sort à Guantanamo. Ils ne sont pas les seuls à végéter dans cette prison d'exception située à la pointe sud-est de Cuba. Au total, 40 hommes y sont toujours enfermés et les trois quarts d'entre eux n'ont fait l'objet d'aucune inculpation ou poursuite. 5 détenus ont même été jugés libérables, mais l'administration Trump s'est pour l'instant opposée à leur sortie. Voilà notre destin, mourir sans avoir été reconnu coupable, a confié à son avocat un prisonnier yéménite qui a fait plusieurs grèves de la faim. Mais il est difficile de juger ces hommes sans évoquer les conditions dans lesquelles ils ont été interrogés. Et le secret défense est régulièrement opposé à ceux qui veulent faire la lumière sur les méthodes de la CIA et de l'armée américaine dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Depuis 2002, 780 personnes sont passées par Guantanamo. Barack Obama voulait fermer la prison, mais il n'a finalement pas tenu sa promesse. Son successeur, lui, rêverait de la remplir à nouveau, si seulement elle ne coûtait pas si cher. Guantanamo, une justice d'exception, c'est un reportage signé Grégory Phillips. Invité de ce grand reportage, Mourad Benchelali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui intervenant dans le cadre de la prévention de la radicalisation. En 2001, vous étiez parti en Afghanistan, vous vous êtes retrouvé dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda et c'est ce qui vous a valu d'être emprisonné à Guantanamo. Combien de temps est-ce que vous avez été détenu dans cette prison ?
Pendant 2 ans et demi. J'ai été libéré en juillet 2004.
Vous avez ensuite été renvoyé en France où vous avez été condamné à 1 an de prison ferme. Vous avez plus que purgé votre peine puisque vous avez passé 18 mois à Fleury-Mérogis. Et avec Antoine Audouard, vous avez écrit « Le piège de l'aventure, des minguettes à Guantanamo et après », un livre témoignage paru chez Robert Laffont. Avec vous, Mourad Benchelali, nous allons écouter le reportage de Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Une précision, Grégory, ce que vous nous proposez, ça n'est pas exactement une visite guidée de la prison de Guantanamo.
Non, pas de la prison, parce que en fait le Pentagone de temps en temps amène des journalistes sur place et il y a 2 types de visites pour tout vous expliquer. Celle à laquelle j'ai participé, c'est quand vous allez assister à des commissions militaires, quand vous allez voir comment le tribunal militaire fonctionne. Et puis l'autre type de visite, c'est pour se rendre dans le centre de détention. Ces visites-là sont très rares. La dernière a eu lieu il y a environ un an et depuis aucun journaliste n'a mis les pieds à l'intérieur de la prison. C'est donc le premier type de visite organisée par le ministère américain de la Défense auquel j'ai participé.
Vous êtes en direct de Washington, Grégory, et c'est là que débute votre reportage.
Welcome everyone. We gather today because 18 years ago, the operations at the US military prison in Guantanamo Bay began.
On est à Washington, devant la Maison Blanche, en plein cœur de la capitale fédérale américaine. Et il y a là quelques dizaines de manifestants qui sont réunis pour marquer le 18e anniversaire de l'ouverture de la prison de Guantanamo et surtout pour en réclamer la fermeture. Devant nous, une quinzaine de ces manifestants ont revêtu une combinaison orange et portent un sac noir sur la tête pour représenter les détenus de Guantanamo. Et puis en face, d'autres portent des pancartes qui disent « Close Guantanamo »,« Fermez Guantanamo ». Alors on a voulu aller sur place, on a fait les démarches nécessaires auprès du département de la Défense. Ça a pris quelques semaines, finalement c'était pas si compliqué, mais après avoir rempli beaucoup de papiers, de documents administratifs, on a eu l'autorisation d'aller passer 5 jours sur place à Guantanamo. Le rendez-vous a été fixé au petit matin sur la base militaire d'Andrews, en banlieue de Washington. Le Boeing 737 de la compagnie Atlas Airlines n'est qu'à moitié plein. Il y a 3h30 de vol jusqu'à la pointe sud-est de Cuba. Cette baie de Guantanamo, louée aux Américains depuis 1903, est jamais récupérée par les Cubains, malgré la révolution castriste. À bord de l'avion, je comprends peu à peu qui est qui. À l'avant, le juge militaire qui dirigera les commissions prévues cette semaine. Quelques rangs derrière, le procureur et son équipe. Et puis encore derrière, les avocats militaires et civils. Au fond de l'appareil, enfin, quelques représentants d'organisations non gouvernementales qui vont là-bas en qualité d'observateurs. Enfin, à 3 fauteuils de moi, il y a Carole Rosenberg, reporter pour le New York Times. Ça fait plus de 20 ans qu'elle va à Guantanamo chaque mois. Impossible de dire combien d'allers et retours elle a fait, peut-être 600. Carole est un peu la mémoire de Guantanamo et celle sans doute qui connaît le mieux l'histoire de cette base militaire, de cette prison et de ses détenus.
La première fois que je suis venue ici, c'était en 1999. C'était avant les attentats du 11 septembre. Et à l'époque, c'était une base navale qui déclinait un peu. Il n'y avait pas grand-chose, très peu de marins, quelques ouvriers qui étaient là pour faire un peu de présence. Les bâtiments étaient quasiment en ruine et la base était presque vide. Dans cette partie de Cuba, où tout autour, il y avait encore des mines antipersonnelles. À l'époque, le président Clinton voulait montrer au monde que les États-Unis étaient engagés contre les mines antipersonnelles et donc les Américains déminaient cette zone. Alors je suis venue faire un reportage là-dessus. Et donc j'ai pris une voiture, j'ai conduit vers la barrière nord où les Marines étaient occupés de manière très précautionneuse à déminer le terrain. Il faut se souvenir que ces engins avaient été enfouis là quelques années auparavant pour prévenir d'une invasion cubaine. La seconde fois où je suis venue, c'était en janvier 2002. On était presque 4 mois après les attentats du 11 septembre. J'ai emprunté le même chemin, en voiture, la rue principale et puis Sherman Avenue. Et je me souviens, on a fait un arrêt juste avant la zone où se trouvait ce champ de mine. Là, l'armée était en train de construire un campement qui allait devenir le camp X-Ray. Les bâtiments étaient vraiment rudimentaires, ça ressemblait plus à un chenil. Il y avait des cages, des barbelés, et c'est là qu'ils s'apprêtaient à mettre les futurs prisonniers d'Al-Qaïda. Ils ont fait venir 20 journalistes, que des Américains. À l'époque, je travaillais pour le Miami Herald, pas le New York Times. Ils nous ont montré ce qu'allait être cette future prison. Puis un peu plus tard, un avion a atterri et il a amené à Guantanamo les 20 premiers détenus. C'était le début de cette expérimentation, ou de cette entreprise, si vous préférez, qui consistait à arrêter des hommes à l'autre bout du monde, à les faire voler en avion 12 000 km d'Afghanistan jusqu'ici, cette prison au sud-est de Cuba, sur cette base militaire. Au fil des années, cette petite base navale un peu assoupie s'est réveillée. Au total, jusqu'à 780 prisonniers sont passés par là. 9 sont morts ici. Certains ont été renvoyés chez eux, quelques-uns ont été condamnés. Et aujourd'hui, il reste 40 détenus. Sur ces 40 hommes, 9 sont inculpés de crimes de guerre. Et les autres sont enfermés ici, sans charge, prisonniers de guerre, de cette guerre contre le terrorisme qui est si particulière.
Une fois sur le tarmac, il faut prendre un ferry qui, en quelques minutes, vous mène de l'autre côté de la baie. Le chaperon du département de la Défense, qui va nous accompagner presque tout le temps pendant ces 5 jours, précise qu'il n'y a pas de souci, on peut prendre des photos, mais pas les installations militaires, pas la prison, pas le tribunal, et jamais, s'il y a un panneau, nos photographies. Rapidement, nous voici à Camp Justice, à côté du tribunal, justement. Un gigantesque campement de toile beige, des latrines, une batterie de générateurs électriques qui tournent en permanence. C'est ici que pour le procès à venir des commanditaires des attentats du 11 septembre, l'armée a prévu de loger les dizaines ou centaines de journalistes qui devraient venir couvrir l'événement. Mais pour l'instant, nous ne sommes que 2, Carole Rosenberg et moi, et on a le temps avec elle de comprendre ce qu'est Guantanamo aujourd'hui.
L'idée derrière cette prison, c'est de détenir des prisonniers de guerre. Ils représentent des ennemis qu'on a extraits d'un champ de bataille et on les a exfiltrés. On les maintient ici, dans ce centre de détention.
Vous savez, dans chaque conflit, il y a des gens qui commettent des crimes de guerre. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas respecté les conventions d'un conflit armé. Tuer un blessé, c'est illégal. Utiliser des armes non conventionnelles, c'est interdit. Il y a un homme qui est là parce qu'il est accusé d'avoir tiré sur un hélicoptère médical. Ces gens-là sont considérés comme des criminels de guerre. Mais la grande majorité des prisonniers de Guantanamo ne sont pas accusés d'avoir commis un crime. On leur reproche d'avoir combattu aux côtés d'Al-Qaïda ou des talibans, mais pas un crime en particulier. Alors bien sûr, on a ici aussi cinq hommes qui sont poursuivis parce qu'ils sont considérés comme les commanditaires des attentats du 11 septembre. On a un autre détenu accusé d'avoir organisé l'attaque au missile lancé contre le destroyer USS Cole. Et ça, pour les États-Unis, ce sont bien des crimes de guerre.
Les conditions de détention ont changé depuis 2002. Le camp X-Ray n'existe plus, il y a des nouveaux bâtiments, c'est très différent.
Je peux vous dire que oui, j'ai assisté à des changements importants, mais ces derniers mois, ils n'ont autorisé aucun journaliste à pénétrer à l'intérieur de la prison. La dernière fois que moi, je suis entrée, c'était en avril. Je pense que depuis, les conditions de détention sont à peu près les mêmes. Mais le commandement de la prison reste très secret et ne veut plus tellement nous montrer les lieux comme on a pu le faire assez facilement ces 18 dernières années. D'après ce que je peux percevoir, toutefois, les conditions de détention ressemblent à celles d'un camp de prisonniers de guerre de l'ère moderne. Ce que je veux dire par là, c'est que désormais, les prisonniers, en petits groupes de 6, peuvent prier ensemble. Ils peuvent prendre leur repas en commun, par groupe de 6, dans des salles fermées et climatisées, avec les gardes qui les surveillent par les fenêtres et grâce à des caméras. Et ils observent chacun de leurs mouvements. Les gardes sont des réservistes et ils tournent tous les 9 mois. Réservistes, ça veut dire qu'ils ne sont pas des militaires professionnels. Ils sont enseignants, policiers, étudiants. Ils viennent ici 9 mois, enfilent un uniforme et se transforment en gardiens de prison. Depuis quelques années, l'idée, c'est de séparer au maximum les détenus et les gardiens, de les isoler, afin que chacun fasse sa vie. Avant, ça n'était pas comme ça. Au début, c'était un prisonnier tout seul, dans sa cellule, même après la fermeture du camp X-Ray, confiné à l'isolement. Et de l'autre côté de la porte, un gardien qui était là pour s'occuper de ce seul prisonnier. Et ça ne fonctionnait pas très bien.
Le clairon dans tous les haut-parleurs du camp marque la fin de la journée. Ce lundi, il n'y a pas eu de commission militaire, alors les avocats qui représentent certains de ces 40 détenus ont du temps. Eux aussi, ils sont venus passer 5 jours à Guantanamo, sans avoir la certitude pour l'instant qu'ils pourront pénétrer à l'intérieur du camp 7 et rencontrer leurs clients. Dans l'avion, on avait repéré un de ces avocats, grand, souriant, tête rasée, habillé en civil. Quand il a compris que j'étais français, il m'avait un peu décontenancé en me demandant immédiatement ce que je pensais de Michel Houellebecq et de ses prises de position sur l'islam. J'ai appris un peu plus tard que James Valentine était un militaire, major de l'US Navy, et que sa mission c'était de défendre, de représenter deux de ces hommes prisonniers à Guantanamo. L'Indonésien Ambali, qui fut le commandant militaire de l'organisation terroriste Jamaah Islamiyah à l'origine des attentats de Bali, 200 morts en 2002. Et puis aussi un Afghan, Mohamed Rahim. Alors j'ai demandé au Major Valentine dans quelles conditions ces deux clients étaient aujourd'hui détenus à l'intérieur du camp 7, du camp numéro 7.
Ambali has been charged, whether or not he will be ever be taken to trial.
Ambali est inculpé, mais est-ce qu'il aura droit à un procès? J'ai des gros doutes. Quant à Mohamed Rahim, il n'a jamais été inculpé. Il n'y a aucune preuve contre lui, mais il reste détenu au camp 7. Il est considéré comme un prisonnier qui a une grande valeur. Mes deux clients restent emprisonnés dans des conditions bien inférieures à tous les standards internationaux en matière de détention de longue durée. C'est vrai néanmoins que les conditions se sont améliorées de manière significative. Par exemple, ils peuvent interagir ensemble un peu plus librement. Régulièrement, ils peuvent aller d'une cellule à l'autre. Ils peuvent se retrouver dans une salle commune qui fait à peu près la taille de 4 ou 5 cellules réunies. Mais ils n'ont pas accès aux équipements les plus basiques et aux règles qui s'appliquent de manière universelle pour les prisonniers à titre humanitaire. Un exemple, chaque pénitencier fédéral aux États-Unis, même si le règlement intérieur peut être rude ou les cellules très austères, chaque pénitencier dispose d'une cour extérieure à laquelle les détenus peuvent accéder, par exemple pour avoir des activités en plein air. Pendant des années, ces hommes-là ont été détenus à l'isolement, parfois même dans des cages, des boîtes. Et aujourd'hui, ils sont encore confinés dans des cellules sans aucun accès à l'extérieur, sans accès à une cour et à l'air libre. L'état de santé de ces deux hommes s'aggrave. D'abord, à cause de leur âge, ils ont tous les deux environ 54 ans, mais incontestablement, ces deux détenus subissent aussi les conséquences et les effets d'avoir été torturés.
18 ans après l'ouverture de la prison de Guantanamo. Ceux qui s'y trouvent encore ont vieilli. Le plus jeune a une trentaine d'années, le plus âgé, un yéménite, la soixantaine. La plupart de ces détenus souffrent encore des séquelles de la torture qu'ils ont subie dans les prisons secrètes de la CIA entre 2002 et 2006. Et leur âge commence à compliquer sérieusement leur détention.
The health conditions of both men are...
L'état de santé de ces deux hommes s'aggrave. D'abord, à cause de leur âge, ils ont tous les deux environ 54 ans, mais incontestablement, ces deux détenus subissent aussi les conséquences et les effets d'avoir été torturés. Ces deux hommes ont été soumis à des tortures liées à l'alimentation. On les a privés de nourriture. On les a aussi maintenus dans des positions corporelles inhumaines. Et aussi, pendant plusieurs années, et ça c'était après les années de torture, ils ont continué à vivre enchaînés. J'ajoute que pour Mohamed Rahim en particulier, il souffre de ce que la communauté médicale décrit comme des nodules. Ça peut être le signe qu'il est atteint d'un cancer. Nous savons aussi, et je ne le sais que grâce aux informations que lui m'a communiquées, qu'il a de gros problèmes aux reins. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il a ce problème. En vérité, un cancer ou une maladie des reins, on est dans le flou. Pourquoi ? Parce que la CIA refuse de nous donner son dossier médical. Et c'est la même chose pour tous les détenus du camp numéro 7 et pour la plupart des prisonniers à Guantanamo. Tous ceux qui ont été torturés par la CIA, leurs dossiers médicaux restent mystérieux.
Voici Suzy Hensler, avocate, civile cette fois. Elle dirige l'équipe de défense du détenu Abdelhadi Al-Iraqi, soupçonné d'avoir été l'un des commandants militaires d'Al-Qaïda.
Avant d'être arrêté par les forces américaines, il avait un problème de moelle épinière. Après son arrestation, il a été détenu dans les prisons secrètes de la CIA. Et pendant toute cette période, il a été torturé. Et évidemment, son état de santé s'est dégradé. Quand il est arrivé à Guantanamo Bay, il a parlé à l'équipe médicale de ses douleurs au dos. Mais ça a été totalement négligé pendant une dizaine d'années, au point qu'il était quasiment paralysé quand le commandement militaire a fini par le faire examiner par une équipe de chirurgiens. C'était en 2017. À cette époque-là, l'organisation Physicians for Human Rights a estimé qu'il était sur le point de perdre la possibilité de marcher. Maintenant, il ne se déplace plus qu'avec un déambulateur, parfois une chaise roulante. Mais à cause du fait que le centre de détention était incapable de s'occuper correctement de lui, il ne peut quasiment plus marcher. Il est vraiment en mauvais état.
Est-ce que cette prison est capable de prendre en charge ce type de détenu ?
Non. Ils n'ont pas ici le niveau médical suffisant pour pouvoir gérer cette population détenue de plus en plus âgée. Des hommes qui plus est ont été maltraités pendant des années et qui souffrent physiquement et psychologiquement des conséquences des mauvais traitements qu'ils ont reçus.
Donc ça risque de devenir un vrai problème dans les prochaines années, non ?
Oui, la situation va encore se dégrader. Et pour le gouvernement américain, ça va devenir de plus en plus coûteux de gérer une telle population. Ça ne va certainement pas s'améliorer.
Oh. À la nuit tombée, à part rester sous sa tente climatisée, il n'y a pas grand-chose à faire à Camp Justice. Alors le chaperon militaire qui m'accompagne et m'encadre propose ce soir-là d'aller faire un tour sur la base. Ici, nous sommes dans le bowling et le restaurant Tex-Mex où les soldats et leurs familles viennent tuer le temps. Guantanamo, c'est 6000 personnes, 2000 environ affectés à la prison et 4000 autres, civils et militaires, qui travaillent sur la base navale. Tout ça, évidemment, coûte extrêmement cher. À l'automne, la journaliste d'investigation de la radio publique NPR, Sacha Pfeiffer, est même parvenue à chiffrer tout cela. En 18 années d'existence, le camp a coûté 6 milliards de dollars aux contribuables américains. On retrouve la reporter à Washington, dans les bureaux de NPR.
Ça a été très difficile de trouver combien cette prison coûte chaque année, parce que le gouvernement ne veut pas communiquer là-dessus. Mais on pense que ça coûte au bas mot 380 millions de dollars par an. Et encore, ce chiffre ne prend pas en compte les salaires des employés fédéraux, celui des gardiens de la prison, donc c'est sans doute beaucoup, beaucoup plus cher que ce que veut bien dire le gouvernement. L'une des raisons qui fait que ça coûte tellement d'argent, c'est que Guantanamo est très très loin. Tout le monde doit faire des allers-retours en avion, chaque bien, chaque marchandise doit être transportée par les airs. Les véhicules, la nourriture, c'est une opération extrêmement coûteuse et inefficace. Et en fait, beaucoup de gens pensent que le cas de ces détenus pourrait être traité par une cour fédérale aux États-Unis, ce qui serait beaucoup plus facile. Mais le gouvernement a choisi de faire cela devant une cour militaire tellement éloignée à Cuba.
Carole Rosenberg, du New York Times, a elle aussi enquêté sur le coût faramineux de Guantanamo.
Cette étude que nous avons trouvée révèle que cette prison coûte 13 millions de dollars par an et par prisonnier. Il n'y a plus que 40 détenus, donc le coût de tout ceci est évidemment beaucoup plus important quand il y a peu de prisonniers. S'ils étaient encore une centaine, le coût par détenu serait moins important. Mais il y a ici 1800 soldats et 300 employés privés qui font fonctionner la prison. Nous savons que le séjour ici d'un militaire revient à peu près à 100 000 dollars. Et il y a pour ces gardiens une rotation tous les 9 mois. Ce n'est pas du personnel permanent. Et évidemment, ça coûte très cher de faire ça. Et puis Guantanamo coûte cher parce qu'ils ont choisi Guantanamo. C'est loin de tout, isolé. C'est situé derrière un champ de mines. Il y a zéro relation avec Cuba. Ils ne peuvent absolument rien acheter là-bas à cause de l'embargo politique et économique. Ils ne peuvent pas faire travailler des locaux. Donc ils doivent tout importer ici, que ce soit par avion ou avec une barge. Ils font ça pour les ouvriers, par exemple. Il y a sur la base environ 2000 employés philippins et jamaïcains qui travaillent pour le Pentagone, mais recrutés par des sous-traitants privés. Ils vivent ici, sur la base, et entre parenthèses, pas dans les meilleures conditions. Au total, la base compte 6000 habitants. C'est comme une petite ville. Si vous avez une petite ville avec les marins et leurs familles, vous avez une école, vous avez une église, il y a un cinéma. Ce n'est pas une base militaire comme les gens peuvent l'imaginer. Donc, tout ce qui arrive ici coûte cher. La moindre chose que vous mangez est arrivée réfrigérée via un porte-container ou par un avion frigorifique qui atterrit ici chaque semaine. Le tribunal aussi coûte cher. La cour à elle seule représente 12 à 15% du coût total de la prison. Ça peut paraître complètement dingue, mais tout ce qu'ils ne veulent pas nous montrer est sans doute encore plus fou et coûteux. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une commission militaire, il y a un système de rotation aérienne avec un avion qui, chaque semaine, est envoyé par le Pentagone et fait l'aller et retour. Cette simple liaison hebdomadaire coûte entre 160 000 et 180 000 dollars, qu'il y ait à bord une centaine de passagers ou qu'il soit seulement 5. Si jamais une audience est annulée, ils doivent maintenir l'avion parce que vous aurez toujours quelques avocats qui vont embarquer pour aller rencontrer leurs clients. Donc voilà, nous, les journalistes, on dort sous des tentes et j'ai l'impression qu'on dépense énormément d'argent en essence pour qu'elle fonctionne et soit climatisée. Beaucoup plus d'argent que, par exemple, si on était autorisé à séjourner dans l'hôtel qui se trouve sur la base pour 50 dollars par nuit. Mais ils ont créé ce campement de toile avec l'idée qu'un jour, il y aura ici des centaines de journalistes et qu'on les mettra sous ces tentes. En même temps, obliger les médias à vivre sous ces tentes, c'est pratique pour eux parce qu'on ne voit pas ce qui se passe sur la base.
Guantanamo, c'est 75 km², une petite ville avec son McDonald's, son parcours de golf, ses plages et même ses soirées. Mais en fait, il y existe deux zones sur la base qui sont très militarisées et inaccessibles si vous n'avez pas de voiture. Et nous, reporters, on n'a pas le droit d'en conduire une. La première zone, c'est la prison, avec les 1800 gardiens. Et l'autre partie, très surveillée, c'est ici, Camp Justice, où peut-être un jour, il y aura un grand procès. Mais en attendant, les lieux ressemblent à un vieil aéroport tout vide, avec sur le tarmac des dizaines de tentes et quelques bâtiments désordonnés.
Ce mercredi matin, il se passe enfin quelque chose à Camp Justice. Aujourd'hui se tient une commission militaire. L'homme qui va comparaître s'appelle Majid Khan, 39 ans, arrêté en mars 2003 au Pakistan, détenu pendant 3 ans dans une prison secrète de la CIA, torturé, avant d'être incarcéré ici à Guantanamo en septembre 2006. 6 ans plus tard, en 2012, l'homme qui a grandi à Baltimore sur la côte est des États-Unis plaide coupable d'avoir servi de porte-valise pour Al-Qaïda et d'avoir planifié un attentat contre le président pakistanais Musharraf. Ce jour-là, on pénètre donc dans le tribunal après avoir passé plusieurs contrôles de sécurité. Je suis derrière une vitre, Majid Khan arrive, vêtu à l'occidental, entouré de ses avocats. Il parle en anglais et tient à la main un chapelet musulman avec lequel il joue pendant les 2 heures que vont durer l'audience. C'est le juge militaire texan Douglas Watkins qui mène les débats. Tous les propos tenus, on les entend avec 30 secondes de décalage. Le micro est coupé si les parties abordent des informations classées secret défense. Paradoxalement, le cas de Majid Khan est l'un des plus simples à Guantanamo. Il a plaidé coupable, il coopère. Il a d'ailleurs été sorti du camp numéro 7 afin de ne plus être mélangé aux autres détenus. Mais son avocat civil, qui le représente, Wells Dixon, ne voit pas d'issue immédiate pour son client.
Avant tout, il est le seul à essayer d'avancer dans ce système complètement fou. Et croyez-moi, ça n'est vraiment pas facile. Je pense que vous avez pu le constater aujourd'hui en assistant à cette commission. Son cas est devenu plus compliqué parce qu'on s'approche du prononcé de sa peine. Et ça s'accélère pour lui plus vite que pour les autres accusés. Ce que cela signifie, c'est que des problèmes qui ont déjà pu être abordés par le tribunal militaire se retrouvent à nouveau sur la table. Ça inclut par exemple les preuves concernant le fait qu'il a été torturé. Faut-il entendre des témoins sur la manière dont la torture était pratiquée? Et puis il y a cette question, quelqu'un qui a été détenu et torturé dans des prisons de la CIA, peut-il obtenir réparation au moment de la fixation de sa peine? Ces difficultés, jusqu'ici, n'avaient pas vraiment été abordées lors des commissions militaires. Et tout ceci génère des discussions très complexes et disputées.
Pendant l'audience, Wells Dixon, assisté d'ailleurs d'un avocat militaire, réclame que les 3 années de torture subies par son client Khan soit prise en compte par le tribunal au moment où il rendra sa sentence, mais la requête est rejetée par le juge Watkins. En 2 heures de débat, je comprends que cette question de la torture est centrale et qu'elle explique en partie pourquoi cela prend autant de temps de juger ces hommes.
Je pense qu'il est important de comprendre que ce système de justice militaire et ses commissions ont été imaginés et conçus pour faire en sorte que la CIA n'ait jamais à rendre de compte sur la torture. L'idée, ce n'est pas seulement d'empêcher ces informations de devenir publiques, mais aussi le gouvernement veut être certain que la CIA n'aura jamais à répondre de cela. Comme j'ai expliqué à la cour hier, on ne peut pas ignorer ce qui est arrivé à Majid Khan. Et quand il a accepté de plaider coupable, la chose la plus importante pour lui, ce qu'il a voulu négocier, c'était d'avoir la possibilité d'évoquer les tortures qu'il a subies. De pouvoir dire « ça m'est arrivé, je suis un être humain, je suis là devant ce tribunal, j'ai accepté de coopérer avec le gouvernement des États-Unis et je l'ai fait malgré tout ce que j'ai pu subir pendant ces 3 années et demie entre mon arrestation et mon arrivée à Guantanamo.
Les avocats de la défense vous diront qu'ils veulent cacher ces cas de torture.
Carol Rosenberg.
Les procureurs, s'ils acceptaient de vous parler, vous diraient que pour des raisons de sécurité, il y a certaines choses que les États-Unis doivent garder secrètes, que nous sommes toujours en guerre contre le terrorisme et qu'il y a certains pays, certains alliés et certaines pratiques qui ont été utilisées, qui doivent rester protégées. Mais il est vrai que, en pratiquant sur ces hommes des simulacres de noyade, par exemple, en les privant de sommeil, parfois en les affamant, en les gardant dans des cellules sans aucune lumière, où ils ne voyaient ni les rayons du soleil, ni personne, ni aucun autre détenu, parfois pendant une année entière, nous avons créé une catégorie de prisonniers comme on n'en a jamais connu auparavant aux États-Unis. Normalement, tout le monde a le droit d'être présenté à un juge, le droit de ne pas être battu ou abusé par ceux qui vous ont capturé. Or, on a créé une catégorie de détenus à qui on a fait subir toutes ces choses.
This is manifestly obvious. C'est une évidence. Vous ne pouvez pas torturer quelqu'un et puis ensuite juger cette personne dans un procès qui respecterait les standards internationaux en matière de justice.
Le major James Valentine.
Vous ne pouvez pas torturer quelqu'un, puis ensuite, devant une cour militaire, dire que vous organisez un vrai procès. Or, c'est clair, jamais la CIA ne révélera les informations qu'elle a en sa possession. Ils ne veulent même pas dire dans quel pays étaient situées ces prisons secrètes et ces lieux de torture. Donc, ils seront encore moins transparents avec les identités de ceux qui ont pratiqué ces tortures. À ce stade, c'est absolument impossible d'organiser un procès équitable qui respecterait les standards en matière de droits humains. Un procès qui aurait lieu ici, à Guantanamo.
À Washington, dans les locaux de la radio publique NPR, Sacha Pfeiffer.
Beaucoup pensent que ce gouvernement, en fait, ne veut pas que tout ça aille jusqu'à un procès. Parce que s'il y a un procès, beaucoup d'informations sur ces cas de torture pourraient sortir à cette occasion. On ne sait même pas où se trouvaient ces prisons secrètes. On ne sait pas qui étaient ceux qui pratiquaient la torture, et si jamais il y avait un procès, alors ces informations pourraient devenir publiques. Le gouvernement ne laissera jamais faire ça. À Guantanamo, j'ai posé cette même question à tellement de gens. Comment ça va se résoudre? Comment ça va se terminer? La plupart n'en ont aucune idée. Ou alors, ils pensent que ça se terminera quand les détenus vont mourir là-bas, l'un après l'autre, sans jamais avoir été jugés, sans jamais avoir été même inculpés.
Good morning, everybody. In our fight against terrorists like Al-Qaeda and ISIL, we are using every element of our national power.
À son arrivée à la Maison Blanche en 2008, Barack Obama s'était engagé à fermer Guantanamo et à rapatrier ses détenus sur le sol américain. Mais le Congrès de l'époque, y compris d'ailleurs dans les rangs démocrates, avait empêché cette fermeture. Donald Trump, lui, dans son discours sur l'état de l'Union en janvier 2018, disait ceci.
Je viens juste de signer, juste avant d'entrer dans cette salle, un décret demandant au secrétaire à la Défense, Mattis, qui d'ailleurs fait un boulot formidable, de réexaminer notre politique en matière de prison militaire et de laisser ouvert le centre de détention de Guantanamo Bay.
Alors, il est probable que la prison de Guantanamo restera ouverte encore 10, 15 ou 20 ans et que la plupart de ces détenus finiront leur vie ici. 31 d'entre eux sont des prisonniers de guerre, sans charge, et ne sortiront pas de Guantanamo tant que la lutte contre le terrorisme ne sera pas terminée, autant dire jamais. Avant de quitter Guantanamo et de reprendre l'avion, il y a une chose qui me restait à comprendre. Pourquoi cet avocat militaire, le major James Valentine, acceptait-il de venir une semaine par mois, jusqu'ici, sans garantie de pouvoir rencontrer ses clients? Comment lui, le gradé, le militaire de carrière, s'était-il retrouvé à défendre deux hommes, considérés par les autorités de son pays comme les terroristes, parmi les plus dangereux de la planète?
Guantanamo,
c'est absurde, c'est ridicule, surréaliste. Je pense que chaque officier, chaque avocat militaire comme moi, qui est assigné ici à Guantanamo, doit réaliser et comprendre qu'il n'y a pas de moyen plus formidable pour lui de défendre la Constitution des États-Unis que de venir ici, se battre vigoureusement contre les procédures qui sont menées ici et de combattre cette aberration de justice qui se joue à Guantanamo depuis 18 ans maintenant. Il faut combattre de l'intérieur ces terribles violations de la loi que sont par exemple la détention sans aucune limite de temps et la torture. À mes yeux, il n'y a sans doute pas de meilleur endroit pour un officier américain s'il veut servir et défendre la Constitution des États-Unis.
Comprendre aussi pourquoi la journaliste Carol Rosenberg enquête depuis plus de 20 ans sur Guantanamo. Elle est la dernière reporter à y venir tous les mois, à dormir sous la tente, à essuyer les refus des porte-paroles militaires de répondre à ses questions. Mais à chaque fois, elle insiste pour raconter ce qui se passe derrière les murs de cette prison.
La première fois que je suis venue ici, à l'époque, une centaine de reporters venaient chaque mois à Guantanamo, par groupe de 20, et j'étais l'une d'entre eux. Et puis les gens se sont désintéressés. L'armée a fait en sorte que ça devienne de plus en plus difficile de travailler ici. Avant, on était plutôt bien traités, respectueusement, on avait un bon hébergement, on pouvait poser des questions. Le commandement militaire reconnaissait le rôle de la presse et son droit d'être là, de poser des questions. Et puis quelque chose a changé au fil du temps. C'est devenu difficile, inconfortable de travailler ici. Là où nous, les reporters, sommes parqués, c'est même sale. Et donc les autres journalistes ont arrêté de venir ici. Le sujet intéressait moins les lecteurs, c'était complexe à suivre, alors tout le monde ou presque est passé à autre chose. Et en fait, on est arrivé à un point où moi j'ai continué à venir parce que plus personne ne voulait le faire. C'est une prison américaine, c'est un tribunal américain, et ils essayent de cacher tout ça à la presse. Ils essayent de cacher ça au peuple américain. Mais moi, je ressens l'obligation de raconter à mes lecteurs ce qui se passe ici, et de poser les questions que mes lecteurs ont le droit de se poser. Quelqu'un doit raconter ce qui se passe à Guantanamo, et personne d'autre ne le fait désormais.
Même si ça n'est pas toujours facile.
Non, c'est déplaisant. C'est même particulièrement désagréable en ce moment. C'est une période dure. Le commandement de la prison se cache. Hier, regardez, on a croisé la porte-parole du centre de détention, par hasard, parce qu'elle faisait aussi ses courses au centre commercial de la base, et elle nous a tourné le dos. C'est un officier militaire. Son travail, c'est de parler aux journalistes, de répondre à nos questions, et elle s'est carapatée. C'est une période très sombre. Et quand je dis ça, je veux dire que nous, les Américains, on espère pouvoir faire la lumière sur les agissements de notre gouvernement. C'est comme s'ils avaient éteint la lumière et refusé de répondre aux questions.
Comprendre enfin pourquoi les Américains ont presque oublié ou voulu oublier que ce camp de Guantanamo existe encore. Oublier aussi que leurs responsables politiques, démocrates comme républicains, ne savent en vérité pas quoi faire de ces 40 détenus. Sacha Pfeiffer.
Ça me surprend à chaque fois de constater que de nombreux Américains ne savent même pas que la prison de Guantanamo est encore ouverte, que 40 détenus sont toujours là-bas, que beaucoup d'entre eux n'ont même jamais été inculpés, et que certains ont obtenu le droit d'être relâchés mais n'ont jamais été libérés. Même si vous pensez qu'ils méritent de rester toute leur vie en prison, ou même d'être condamnés à mort, même si vous pensez cela, je pense qu'il faut avoir ce débat. Est-ce le bon endroit pour faire cela? Est-ce que ça vaut tout cet argent dépensé dans cette prison? Et puis il y a un autre enjeu encore plus important. Les États-Unis ont-ils respecté leur éthique, leurs valeurs, en ayant torturé les gens après le 11 septembre? Personnellement, je pense qu'il faut continuer à parler de tous ces sujets.
Guantanamo, une justice d'exception, un reportage de Grégory Phillips avec Annie Brois à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, Mourad Benchelali. Alors merci d'avoir accepté de parler avec nous de Guantanamo, ce qui doit remuer des souvenirs éprouvants. Vous étiez le détenu numéro 161. Quand vous étiez dans cette prison de 2002 à 2004, vous alliez alors, vous aviez une vingtaine d'années. Quelles étaient vos conditions de détention?
Alors, ça a été un peu décrit par la journaliste Carol Rosenberg. Pardon, je suis arrivé au camp X-ray. Donc, c'est ces cages en extérieur, faites d'enclos grillagés. On sort pas, enfin, on est enfermé 24 heures sur 24. Les journées sont rythmées par les premiers interrogatoires. On est interrogé par des services de renseignement, enfin, des militaires américains. Et c'est le seul moment où on sort de la cellule. Alors on est coupé totalement du monde, c'est pas comme une prison classique, il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de possibilité d'appeler sa famille ou d'envoyer des courriers. On est vraiment totalement coupé du monde et puis surtout on n'a aucune explication sur les raisons pour lesquelles on est arrivé ici. ni pourquoi est-ce qu'on est détenu et combien de temps ça va durer.
Donc, aucune visibilité sur la suite.
C'est ça.
Vous n'aviez pas la moindre idée de ce qui pouvait vous arriver.
C'est-à-dire, depuis mon arrivée au camp, je suis dans l'incertitude de l'avenir quasiment toute ma détention.
Et donc, il vous est arrivé de penser que vous alliez y rester ?
Alors, j'ai eu des discussions avec certains militaires. Alors, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, notamment au camp Delta. Donc, c'est le deuxième camp dans lequel je vais être transféré 4 mois après le premier. Et eux nous disaient qu'on risquait la peine capitale. Voilà. Que les Américains considéraient que nous devions payer pour les atrocités que d'autres avaient commises. Et que pour cette raison-là, on allait certainement y même passer, évoquer même la chaise électrique.
Alors, vous dites que d'autres avaient commises, puisque vous n'aviez participé à aucune action.
Moi, contrairement aux apparences d'ailleurs, j'ai été à des années-lumière d'imaginer la participation à un quelconque projet criminel. Et puis, en effet, vous avez expliqué au départ que je me suis malgré tout retrouvé dans un camp d'entraînement. Alors, j'explique les circonstances complexes dans lesquelles j'ai pu me retrouver dans cette situation. C'est une chose qui m'a été imposée par des combattants étrangers. Et puis, c'est un contexte particulier. Moi, je pars à l'âge de 18 ans en Afghanistan avant le 11 septembre. Avec beaucoup de naïveté et beaucoup d'inconscience, c'est comme ça que je me retrouve dans cette situation et dans cette machine qui va me mener en effet dans cette prison. Mais j'ai toujours clamé mon innocence, évidemment.
Alors, quand vous étiez emprisonné à Guantanamo, vous aviez un suivi médical ?
Non. On a eu des médicaments, d'ailleurs qui pouvaient d'ailleurs nous avoir été imposés. Alors, on savait d'ailleurs toujours pas pourquoi. Enfin, il arrivait qu'on ait des injections, des pilules qu'on devait prendre. On nous disait que c'était pour notre santé, que c'était certainement pour nous. Par prévention. On nous disait qu'il y avait des maladies qui circulaient, comme la tuberculose ou la malaria, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'explications. Mais en tout cas, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir un vrai suivi médical à ce moment-là.
Et vous avez été torturé d'abord en Afghanistan et ensuite à Guantanamo ?
Alors, en effet, j'ai été incarcéré quelques jours au camp de Kandahar. Alors moi, je laisse chacun avec la définition qu'il a de la torture. En tout cas, comme ça a été décrit dans le reportage, d'ailleurs, l'isolement, le fait d'être affamé volontairement, la privation de sommeil, les humiliations sexuelles aussi, le fait d'être entièrement nu. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les quelques photos de la prison du camp irakien d'Abu Ghraib et ça m'a rappelé ce que nous avions vécu à Kandahar et une partie de ces choses-là aussi à Guantanamo, sauf que les photos ne sont pas sorties. Et voilà, donc oui, ça fait partie de cette période.
Et tout ça, ça a laissé des traces physiques, psychologiques ?
Je dirais surtout psychologiques. Je suis sorti avec ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que m'a diagnostiqué un psychothérapeute que j'ai rencontré, le syndrome de stress post-traumatique. Alors, on a des trous de mémoire, on a des flashbacks, on est un peu agressif, on a le corps qui fait plein de choses un peu bizarres. Et puis il m'a aidé voilà, à en sortir. Mais en effet, je suis sorti très malade ouais, de cette détention.
Donc vous avez été pris en charge en France
Alors, c'est pas du tout dans un cadre institutionnel. J'ai pas été aidé par... c'est surtout un ami qui m'a présenté ce médecin, etc. Donc ça s'est fait dans un cadre informel. Mais en effet, quand j'ai été libéré, j'ai été livré totalement à moi-même.
Et donc, quand vous étiez en détention à Guantanamo, qu'est-ce qui vous faisait tenir ?
L'espoir que ça allait se terminer un jour. Je pense à ma famille aussi, qui devait certainement beaucoup s'inquiéter pour moi. Et puis surtout, on était accusés quand même de choses terribles. D'être des bêtes féroces, assoiffées de sang américain, qu'on était capable enfin, qu'on avait été complice d'une manière ou d'une autre des terroristes qui avaient frappé à New York en septembre 2001. Et donc, on se disait que craquer, enfin, moi, je me disais ça, d'avoir de la haine ou de basculer dans la dépression ou ce genre de choses, était de nature à nourrir ces accusations et que pour moi, la meilleure manière, finalement, d'en sortir, c'était de rester moi-même et de tenir.
Est-ce que vous êtes raccroché à la religion, à l'islam ?
Alors aussi, d'autant plus qu'à Guantanamo, de toute façon, il était quasiment impossible d'avoir la moindre distance avec la religion. Nous avions pour seule lecture, en tout cas pendant la plus grande partie de la détention, le Coran. Et puis pendant le Ramadan, par exemple, on ne donnait pas à manger, donc il était quasiment impossible de ne pas pratiquer finalement. Et en effet, c'est aussi ce qui nous restait, donc c'était aussi un moyen de tenir, oui.
On pouvait aussi être tenté justement de se tourner vers l'islam radical.
Oui. Ceci étant, j'ai pu discuter avec certains détenus. Alors à Guantanamo, c'est principalement des pratiquants. Malgré les conditions dans lesquelles j'ai été détenu et puis ce qui s'est passé, alors moi je ne considère pas être sorti radicalisé. Enfin moi, pour ma part, la religion m'a plutôt apaisé. En tout cas, m'a conforté dans l'idée que ce que j'avais pu entendre justement dans ce camp d'entraînement n'était pas mon chemin. J'ai essayé de prendre du recul sur les raisons pour lesquelles j'avais été arrêté, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'avais compris que ma petite histoire s'était noyée dans une grande histoire. J'ai pu discuter aussi avec des militaires qui m'expliquaient leur point de vue. Eux disaient que leur armée n'avait pas le droit de nous traiter comme ça. En tout cas, c'était le point de vue de certains d'entre eux. Donc, ils avaient malgré tout aussi beaucoup d'humanité. Et donc, eux faisaient l'effort de nous comprendre. Et ça me donnait moi aussi envie de faire l'effort de les comprendre. J'avais compris. Enfin, j'essayais de ne pas avoir une vision manichéiste de ce que j'étais en train de vivre, que ce n'est pas les gentils d'un côté ou les méchants de l'autre. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis sorti aujourd'hui.
Alors, dans quelles conditions est-ce que vous avez pu sortir de Guantanamo ?
Alors, je ne sais pas. Je sais juste qu'on est venu me voir un jour et on m'a dit « Mourad, tu rentres demain ?» Moi qui pensais y passer toute ma vie, j'y croyais à peine. J'y crois que quand je suis dans l'avion et que je suis dans une espèce d'euphorie, on ne sait pas si c'est réel ou on rêve. Et puis, c'est à la descente de l'avion que je suis arrêté par un policier en civil qui met des menottes et qui me place en garde à vue.
Et donc là, vous comprenez que ce n'est pas fini ?
C'est ça. On m'explique que Guantanamo ne compte pas parce que Guantanamo n'existe pas, que je vais être, qu'on me reproche ce passage justement dans un camp d'entraînement, que je serais devenu dangereux à cause de cela. Et puis surtout, on pose aussi la question de mes intentions. On me dit qu'on ne me croit pas du fait que je serais parti sans savoir en Afghanistan et que j'avais eu dès le départ des mauvaises intentions. Alors je me dis, c'est pas grave, avec le temps on va finir par comprendre et donc je patiente. Et je me retrouve malgré tout incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis en détention provisoire.
Avec donc une condamnation à un enferme.
Je vais être condamné à un enferme. On fait appel et puis en deuxième instance, nous sommes relaxés. Et autant vous dire que c'était un des plus beaux jours de ma vie. Malheureusement, le parquet fait annuler la relax. Nous pourvoyons en cassation et puis nous sommes aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous continuons à contester cette décision.
Donc les démarches ne sont pas finies. Parallèlement, vous avez porté plainte pour faire reconnaître les actes de torture.
C'est-à-dire que des juges d'instruction ont accepté d'instruire une plainte pour séquestration, détention arbitraire et acte de torture en 2005, qui s'est nourrie avec les mois et les années de plusieurs demandes d'actes, de désignation de responsables américains, par exemple, comme le mandat d'arrêt contre le commandant Miller, qui était le commandant en charge de Guantanamo de 2002 à 2004, et qui est d'ailleurs le commandant aussi qui est à l'origine des scandales d'Abu Ghraib. En d'autres termes, il s'est entraîné chez nous pour aller l'appliquer à Abu Ghraib. Donc c'est une plainte qui avait bien avancé en fait. Il se passait beaucoup de choses et puis malheureusement nous avons constaté que récemment une nouvelle juge d'instruction avait été désignée suite à la démission de celle d'avant et que cette plainte semble se diriger vers un non-lieu définitif.
Donc effectivement en décembre la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu mais vous pouvez encore vous pourvoir en cassation ?
C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et puis bon voilà, de toute façon on est très pessimiste hein, sur l'issue de cette plainte. On est très déçu aussi parce qu'on considère que ça ne nous concerne pas seulement nous, que c'est symbolique, que ça participe à la déconstruction de la torture et de surcroît par une grande démocratie comme celle des États-Unis et que de condamner les responsables c'est aussi prévenir la torture dans le futur. Donc on considère que c'est un enjeu qui est très important et que c'est pas être anti-américain d'ailleurs que déposer cette plainte.
Mais si la justice ne peut pas reconnaître ces tortures aujourd'hui, c'est pas faute de preuves. Hein. Donc qu'est-ce qui bloque exactement ? Qu'est-ce qui bloque la procédure ?
Alors ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'on nous a expliqué que le fait de poursuivre des responsables américains, c'était poursuivre l'État américain. C'est-à-dire que ces militaires, ces responsables avaient agi au nom de l'État américain. Et donc de ce fait, on ne pouvait pas les poursuivre parce que ce serait poursuivre tout l'État américain et ça n'aurait pas de sens. Voilà. Alors moi je comprends pas tout à fait ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on nous a dit.
Une question de Grégory Phillips.
Mourad Benchelali, après avoir rencontré beaucoup de monde sur Guantanamo et y avoir passé 5 jours, le sentiment que j'ai, c'est que ces hommes resteront à vie là-bas et qu'il n'y aura peut-être même jamais de procès, même s'il a été annoncé pour l'année prochaine. Comment vous voyez les choses ?
Le problème de cette prison, c'est pas simplement... alors évidemment, j'ai une pensée pour ceux qui sont encore détenus, parce que je n'ose pas imaginer l'état de détresse dans lequel ils sont, moi qui ai passé seulement 2 ans et demi. Ceci étant, ça dépasse largement leur cas personnel, parce qu'en fait, c'est le message qui est envoyé au monde entier, cette prison. La façon dont on juge ces personnes, on les traite, et en fait, de manière générale, la manière dont les États-Unis luttent contre le terrorisme. Et donc de faire ça, c'est envoyer un message en disant « Nous, les États-Unis, cette grande puissance, nous torturons, nous privons des personnes de leurs droits les plus élémentaires et nous jugeons par l'arbitraire. » Et je pense que c'est le plus grand danger, en fait, d'ailleurs aussi pour les États-Unis, que de faire les choses de cette manière.
Il y a encore deux semaines, un psychologue américain a justifié l'usage de la torture. Il s'agit de James Mitchell. Il était auditionné à Guantanamo. C'était une audience préparatoire du procès des hommes accusés d'avoir planifié les attentats du 11 septembre. Et il a expliqué protéger la vie des Américains, c'était plus important que l'inconfort de terroristes qui avaient volontairement pris les armes contre nous. Quand vous entendez ça, comment est-ce que vous réagissez ?
Alors moi je suis assez d'accord avec les experts qui expliquent que la torture en fait ça n'apporte pas d'informations en fait. Alors j'ai juste une toute petite anecdote en ce sens, c'est-à-dire que j'ai été une fois interrogé par des militaires qui m'avaient emmené une espèce de grande carte de Paris en me disant il faut que tu nous montres les mosquées, tu nous donnes les noms des imams, etc. Alors mon problème moi c'est que je suis lyonnais, j'ai jamais vécu à Paris. Mais je savais que si je donnais pas de nom, justement, je risquais de passer, moi aussi, encore un mauvais moment. Donc, j'ai inventé un tas de noms, etc. Et puis, ils étaient très contents. Ils avaient aucune possibilité, de toute façon, de vérifier ces informations en temps réel. Et puis, je suis reparti dans ma cellule. Donc, c'est bien, de mon point de vue, la preuve que les mauvais traitements ne servent à rien.
Alors, un petit mot sur cette question du vieillissement évoqué, du vieillissement des prisonniers à Guantanamo. Tel que vous connaissez la prison, est-ce que vous pensez qu'on peut effectivement l'aménager, l'adapter aux besoins de prisonniers d'une santé fragile, en perte d'autonomie ?
Le problème, ce n'est pas tant les conditions de détention, c'est cette incertitude de l'avenir, c'est ce manque, c'est cette non-visibilité sur le temps qu'on va y passer, cet isolement aussi, on est coupé totalement du monde, c'est une base militaire, il n'y a rien autour. Donc je pense que c'est, enfin, quoi qu'on puisse aménager, de toute façon, c'est une prison qui est faite pour détruire les personnes qui y sont enfermées.
Pour vous, Guantanamo, c'est derrière vous ou est-ce que vous avez encore envie de vous battre justement pour qu'on n'oublie pas ce qui se passe dans cette prison et ce qui s'y est passé ?
Alors ça fait longtemps que j'ai compris que ce serait jamais derrière moi, j'ai appris à vivre avec. Oui, je pense que pour l'intérêt général d'ailleurs, au-delà même des États-Unis, je pense que nous devons tous nous opposer à cette prison, simplement pour montrer et pour dire qu'une démocratie ne peut pas torturer, ne peut pas ne peut pas lutter contre le terrorisme de cette manière. Et je rappellerai surtout, parce qu'aujourd'hui je suis très engagé moi dans la lutte contre la radicalisation, que Guantanamo est une formidable source d'arguments, de propagande pour les djihadistes et les terroristes. Donc je pense, ne serait-ce que pour cette raison-là, il y a de quoi demander sa fermeture.
Parce qu'on a la tentation de réagir violemment face à ce qui apparaît comme un déni de justice.
C'est un moyen qu'utilisent les djihadistes en disant, vous voyez, vous, les Occidentaux, nos ennemis, etc., vous permettez de torturer, d'être dans l'arbitraire. C'est bien la preuve que vous ne respectez pas vos propres valeurs et donc vous décrédibilisez de cette manière. Et ça donne des arguments, ça leur donne, en tout cas, eux utilisent les choses de cette manière-là.
Et donc vous, Mourad Benchelali, vous croyez encore à la justice, aux voies légales ?
Oui, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que j'ai fait toutes ces demandes. Après, les choses arriveront comme elles doivent arriver, mais en tout cas, je remercie d'ailleurs mes avocats, William Bourdon et Jacques Debray, qui se sont battus depuis toutes ces années pour faire... Pour maintenir ces procédures et en tout cas, même si ça aboutit pas forcément à ce qu'on a envie, en tout cas, je pense que d'un point de vue symbolique, ce sera toujours une bonne chose, quoi qu'il arrive.
Il y a un mois, la procureure de la Cour pénale internationale a plaidé pour l'ouverture d'une enquête pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre présumés, incluant des exactions de soldats américains en Afghanistan et des actes de torture dont la CIA se serait rendue responsable. Ça vous donne un petit espoir, ça ?
Oui, bien sûr. On sait que ce qui s'est passé dans les prisons secrètes de la CIA ressemble beaucoup à ce qui s'est passé aussi à Guantanamo. Et donc on peut imaginer que s'il y a des condamnations dans ce secteur, il pourrait y avoir une jurisprudence pour ce qui a pu se passer à Guantanamo.
Et donc aujourd'hui, vous partagez votre expérience avec les jeunes. Vous leur racontez ce que vous avez vécu dans cette prison ?
Oui, entre autres. Alors, je leur raconte aussi les dangers de l'embrigadement, la réalité, l'envers du décor, de se retrouver dans un théâtre de djihad, la naïveté aussi dans laquelle on peut partir comme ça avec beaucoup d'idéalisation à l'aventure. Et puis, je leur parle aussi de la prison, de la réalité de la guerre, enfin, toutes ces choses qui sont de nature, en tout cas, leur faire comprendre que partir dans l'idée d'aller rejoindre des groupes djihadistes est la pire idée qui soit.
Et ils vous écoutent ?
En tout cas, ils n'en sortent pas indemnes.
Merci beaucoup Mourad Benchelali. Guantanamo, une justice d'exception. Le grand reportage de cette semaine était signé Grégory Philips, réalisation Annie Bro avec Jean-Guilain Meige à la technique. Merci bien sûr à l'équipe de la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr où vous trouverez une bibliographie avec le livre de Mourad Benchelali et également une BD Guantanamo Kid, l'histoire vraie de Mohamed El Ghorani, l'histoire du plus jeune détenu de la base du camp de Guantanamo. Il avait 14 ans au moment de son incarcération.